Il est 18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
On a des résultats qui sont plutôt rassurants. Il n'est pas impossible qu'on ait aussi des résultats rassurants avec les autres aspects de la réponse immunitaire quand elle va être testée.
Et des nouvelles rassurantes. Donc, vous l'avez compris ce soir, le laboratoire Moderna indique que son vaccin est efficace également pour les variants britanniques et sud-africains.
En revanche, l'Institut Pasteur lui interrompt ses travaux sur le principal vaccin qu'il développait avec le laboratoire Merck.
Pas suffisamment efficace, mais Pasteur travaille sur deux autres projets, on vous expliquera.
Reconfinement, les spécialistes font pression.
Mais le gouvernement se donne encore quelques jours pour trancher, nous dira Louis de Raguenel, sur un confinement qui cette fois serait davantage préventif que curatif.
Le tabassage du jeune Yuri à Paris dans le 15e arrondissement. Le garçon de 15 ans est sorti du coma, mais son état reste sérieux. On verra où en est l'enquête.
8 faux paroissiens devant la justice, accusés d'avoir escroqué une trentaine de prêtres.
Le Vendée Globe, J-2 avant l'arrivée des premiers concurrents. Ça y est, nous y sommes. Corinne Boulot au Sable d'Olonne les attend de pied ferme.
La Bourse de Paris a terminé en baisse, moins 1,57% à 5472 points.
Et puis la météo avec le retour du froid déjà demain. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien. Oui, les températures seront en baisse demain, une baisse très nette, surtout le matin, mais la journée sera très ensoleillée. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est une information importante qui nous est donc parvenue en début d'après-midi, à l'heure où le gouvernement tergiverse encore sur l'attitude à adopter, nouveau confinement ou pas, on va y revenir bien sûr, et alors que les autorités sont particulièrement préoccupées par la progression du variant britannique.
Oui, Anne Le Gall, Moderna indique donc que son vaccin, en théorie, est efficace contre ce variant.
Oui, d'après les résultats de prise de sang sur des personnes vaccinées et d'autres réalisées sur des primates, le vaccin Moderna permet d'obtenir un niveau d'anticorps suffisant pour rester efficace contre le variant britannique. Cette efficacité existe aussi contre le variant sud-africain, même si elle est un peu moins marquée. Alors c'était attendu car le vaccin fonctionne un peu comme celui de Pfizer pour lequel on connaissait déjà l'efficacité contre les variants. Mais pour le professeur Jean-Daniel Lelièvre, infectiologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, cette annonce est une bonne nouvelle, d'autant que le vaccin booste peut-être aussi d'autres réactions de défense comme les lymphocytes T.
On a des résultats qui sont plutôt rassurants. Il n'est pas impossible qu'on ait aussi des résultats rassurants avec les autres aspects de la réponse immunitaire quand elle va être testée. Mais là, on voit bien, ça va être une course dans les mois à venir pour que d'autres variants ne surviennent pas et qu'eux posent un problème plus important que les variants actuels.
Et face à la multiplication des variants, Moderna souhaite aussi tester l'impact de l'injection d'une troisième dose de son vaccin. Ces essais vont être conduits prochainement avec les instituts nationaux de santé américains.
Merci Anne Le Gall. Alors l'autre info importante du jour, cette fois c'est une moins bonne nouvelle, l'Institut Pasteur renonce donc à son principal vaccin.
Qu'il développait en collaboration avec le laboratoire américain Merck, vaccin qui utilisait comme base celui contre la rougeole.
Explication, les premiers tests ont montré qu'il n'était pas suffisamment efficace.
Un échec que relativise toutefois Christophe Denfer, il est le directeur scientifique de l'Institut Pasteur.
C'est une déception, mais en même temps, c'est la loi du développement vaccinal. On parle souvent de partir de 100 candidats pour arriver à un succès. Il faut aussi se dire que de cet échec, on pourra apprendre pour développer des vaccins dans le futur, apprendre aussi comment mieux utiliser cette plateforme rougeole pour le développement de vaccins contre d'autres maladies infectieuses.
Et puis même si ce projet est abandonné, vous avez encore d'autres projets en cours.
Oui, donc l'Institut Pasteur a deux autres projets de candidats vaccins. Un premier projet qui est basé sur l'utilisation d'un autre vecteur viral qui est un virus de la famille du VIH. Les résultats précliniques montrent que ce vaccin est très efficace, en particulier lorsqu'il est administré par l'utilisation d'un spray nasal. Le deuxième projet sur lequel nous travaillons, c'est un vaccin ADN, là aussi avec des résultats précliniques intéressants. Je pense que la recherche nous apprend à rebondir toujours et toujours, et sur cet échec, nous allons certainement rebondir.
Christophe Denfer, directeur scientifique de l'Institut Pasteur, joint pour Europe 1 par Rémi Bostaron.
Oui, tous ces travaux sont bien évidemment scrutés de très près par le gouvernement qui sait qu'il va devoir prendre des mesures drastiques.
On n'y échappera pas, oui, mais quelles mesures et à partir de quand? Bonsoir Louis Dragnel.
Bonsoir.
Où en est la réflexion du gouvernement ce soir, Louis?
Eh bien, je comprends votre question car on a tous envie d'être fixés pour s'organiser pour l'école, le travail, les vacances. Alors j'ai passé pas mal de coups de fil cet après-midi. Et c'est bien l'hypothèse d'un troisième confinement qui revient le plus au sein du gouvernement. Mais la question aujourd'hui est vraiment de savoir quand le mettre en place. car vous savez, la situation n'est pas très claire. Jusqu'à aujourd'hui, les confinements avaient un objectif curatif, essentiellement pour faire baisser le nombre de réanimations dans les hôpitaux. Et cette fois, la logique est d'abord et avant tout préventive, c'est-à-dire pour faire face à la progression des mutants et des variants dont on sait assez peu de choses. Et c'est pour ça que l'exécutif peine à trouver les mesures les plus adaptées, avec une crainte qui revient, celle de l'acceptation sociale. Alors comme avant chaque décision sanitaire, on retrouve deux lignes au sein du gouvernement, la ligne sanitaire qui plaide pour une mise sous cloche stricte et rapide pour faire baisser les courbes épidémiques, et la ligne économique et politique qui défend la nécessité de surtout ne pas casser l'activité économique et sociale. Une certitude à ce stade, nous serons tous fixés mercredi prochain à l'issue du Conseil de défense sanitaire.
Merci Louis Dragnel du service politique d'Europe 1. On en vient à ces images qui ont suscité un vif émoi tout le week-end, de celle du très violent passage à tabac du jeune Yori, 15 ans, il y a une dizaine de jours à Paris, dans le 15e arrondissement.
Oui, une agression sauvage filmée par des caméras de vidéosurveillance dont les images ont fuité sur les réseaux sociaux. Guillaume Bier, le jeune homme est toujours dans un état sérieux. Est-ce que l'enquête avance ?
Oui, le minutieux travail des enquêteurs se poursuit autour d'une hypothèse privilégiée, celle d'un affrontement entre bandes, une expédition punitive, possiblement menée en représailles à un affrontement ayant eu lieu 10 jours auparavant. Alors, dans cette enquête, la vidéo du lynchage de Yuri est évidemment un élément très important pour les policiers, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi les empreintes et les traces ADN qui ont été retrouvées sur place, ou encore l'analyse de la téléphonie ce soir-là. Tous ces indices peuvent permettre d'identifier la dizaine d'agresseurs qui s'est acharné sur l'adolescent. L'une des questions, c'est aussi de savoir si Yuri était personnellement ciblé ou s'il a été frappé parce qu'il faisait partie du groupe visé par les agresseurs. Sur ce point, c'est encore flou. Le collégien n'a toujours pas pu être interrogé par les policiers du 3e DPJ. Il est sorti du coma hier, mais il n'est pas encore capable de s'exprimer, nous a confié tout à l'heure sa mère, qui reste à son chevet.
Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1. Le coup d'envoi aujourd'hui du Beauvau de la sécurité, la grande concertation nationale consacrée à la police et à la gendarmerie, annoncée par Emmanuel Macron après les dénonciations de violences policières. Il va durer 4 mois. Et puis la société Erta devant le tribunal correctionnel de Dax aujourd'hui, poursuivie pour homicide involontaire après la mort il y a 6 ans, du petit Lilian. L'enfant de 2 ans est décédé dans un camping de Messanges sur la côte landaise. Il s'était étouffé avec un bout de saucisse knacky. Le parquet, tout à l'heure, a requis la relaxe.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 18h07, dans quelques secondes, la suite du journal. Des escrocs de père en fils, on vous explique.
Et des héros solitaires attendus de pied ferme.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et direction Le Havre dans la suite de votre journal à 18h09 où se tenait aujourd'hui le procès d'escrocs qui ciblait exclusivement les curés.
Oui, pendant 2 ans, la bande a réussi à soutirer de l'argent à une trentaine de prêtres. Parmi eux, Justin Morin, 2 jumeaux, escrocs de père en fils.
Oui, l'un comparaît libre, l'autre non, et c'est bien lui qui était la tête pensante de l'organisation, comme l'a décrit le président. Dans le box, il a le regard très sombre, et quand vient son tour de parole, il faut vraiment tendre l'oreille. Il mâche certains mots avec un accent havrais très prononcé, difficile de suivre, d'autant qu'il s'agace rapidement. Interrogé sur les 150 000 euros extorqués, il répond net : je me suis pas rendu compte. À cette époque-là, je jouais beaucoup au poker, je me rendais pas compte. Puis on comprend aussi qu'il a beaucoup fumé et pas que des cigarettes. Ça explique ce regard noir et vaseux. Voilà à quoi il utilisait cet argent. Il le répète et s'agace. J'ai tout fait tout seul. Je comprends pas pourquoi vous mêlez mon frère et ma petite sœur. Elle aussi accusée. Son frère jumeau, lui, se défend maladroitement. Je savais rien. Je sortais d'une relation de 10 ans. J'étais bourré toute la journée. J'étais pas au courant. Des faits confirmés par la petite sœur qui explique en larmes l'avoir ramassé à la petite cuillère. L'ambiance est froide et tendue. Le président l'a rappelé en début d'audience, ce mode opératoire est bien un héritage légué par le père à l'un de ses fils, à qui il a tout appris. Après ce qu'on a entendu lors de cette audience, on pense plutôt à une malédiction. Le jugement doit tomber dans la soirée.
Justin Morin au Havre pour Europe 1.
Après le politologue Olivier Duhamel, c'est le producteur de télévision Gérard Louvin qui est aujourd'hui à son tour accusé d'inceste.
Oui, c'est son neveu qui l'accuse de complicité de viol pour des faits commis alors qu'il était enfant et adolescent.
On y reviendra très largement dans le journal de 19h. La France a vendu aujourd'hui 18 appareils Rafale à la Grèce.
6, 9 et 12 d'occasion, montant estimé 2,5 milliards d'euros. Après l'Égypte, l'Inde et le Qatar, la Grèce devient donc le 4e client export de Dassault Aviation pour ses avions de combat.
Et notez que le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier, sera justement demain à 8h15 l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Direction maintenant les Sables d'Olonne, où les leaders du Vendée Globe sont attendus à partir de mercredi.
Et où vous allez bientôt scruter l'horizon, Corinne Boulou, vous êtes sur place. Alors pour l'instant, c'est encore un peu tôt, mais tout le monde se prépare dans une une ambiance forcément particulière cette année.
Oui, effectivement, pendant qu'en mer, les solitaires emmenés ce soir par Charlie Dalin devant Louis Burton et Boris Herman se livrent une bataille navale pour la victoire, et bien à terre, les derniers préparatifs sont en cours pour accueillir les navigateurs au ponton d'honneur du Vendée Globe. Le soleil du jour a permis aux promeneurs de profiter des joies de la côte et d'un chenal qui leur sera interdit d'accès le jour des arrivées. Le huis clos, comme au départ, a en effet été décrété par la préfecture pour raisons sanitaires. Les réactions des promeneurs sablés interrogés tout à l'heure sont mitigées.
Bien sûr, on y serait allé, ça, effectivement. C'est bien dommage que ça se passe autrement, d'ailleurs.
Oh, ben, c'est un peu normal avec tout ce qui se passe, là, à cause du Covid. Bon, faut se faire une raison, quoi, c'est comme ça.
Voilà, cette année, le virus bouleverse la tradition qui pousse habituellement des dizaines de milliers de sablés à se rassembler le long du chenal pour saluer le retour des héros. Certains sablés ont quand même trouvé la parade. Ils seront au balcon des immeubles qui longent l'un des côtés du chenal.
Je vais chez mon beau-frère, il y a un balcon, il donne directement dessus, alors c'est pas un problème.
Au balcon, on va les regarder arriver, donc on leur fait des coucous et puis...
Voilà, donc on attend mercredi avec impatience.
Les navigateurs du Vendée Globe ont quitté les sables il y a 78 jours maintenant à huis clos. Eh bien, ils feront leur retour dans un silence inhabituel, mais il y aura quand même, vous pouvez me croire, beaucoup d'émotions.
Pas de bousculade en tout cas pour vous. Merci Corinne Boulot en direct des Sables d'Olonne en Vendée.
Et merci à vous Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30 et pour le journal de 19h.